Redonder.
Redondant.
Du français redondage.
Redondement.
C'est la bande originale. Soyez les bienvenus avec Leïla Kadhafi.
Bonjour à tous.
Nora Mzaouni. Tom Villa.
Bonjour.
Daniel Morin.
Bravo Daniel.
Et nos invités sont Isabelle Vittari et Astrid. Bravo. Merci de venir même un jour férié.
De loin.
J'aime bien le regard, ouais, c'est ça, de loin. Il y a même des valises qui traînent dans les loges des invités. Prêtes à partir, à repartir. Astrid Veillon et Isabelle Vittari seront à l'affiche d'un film qui s'appelle Meurtre à Aix-en-Provence. J'espère, Tom Villa. Parce que je suis très inquiet. Merci déjà d'être là toutes les deux.
Ah, merci.
Je suis inquiet parce que Tom Villa comprend pas toujours très bien pourquoi nos invités sont présents.
Ah.
Pourquoi vous dites ça?
Parce que
Mais si, comme vous l'avez dit, c'était les deux seuls bien sympas pour venir à la radio en 8 mai. Merci beaucoup. Merci mesdames. Alors donc vous venez donc pour le film Meurtre à Aix-en-Provence diffusé samedi prochain sur France 3. C'est le 21e meurtre à.
D'accord.
Mais c'est pas toujours à Aix. Hein.
Il y a eu l'île de Ré, il y a eu Collioure, il y a eu Guérande, là c'est Aix-en-Provence. Voilà, c'est bien, on passe dans des villes enfin de plus de 10 000 habitants. Ça cartonne, ça doit révéler un truc à mon avis. Soit les Français ont un gros fond de psychopathes qui sommeille en eux, soit il fait pas bon vivre de vivre dans des bleds où on ne part que en vacances. Hein. D'ailleurs, François élargit, là les prochains j'ai vu, il va y avoir meurtre en Auvergne et meurtre dans les Landes. Il est où le corps? Derrière le troisième volcan. Démerde-toi. On s'emmerde même plus sur les localités, Maria. Alors, d'ailleurs, c'est un peu, là, hier, c'était un peu meurtre dans le bois de Vincennes. C'est vrai, je sais pas si vous avez vu. Bon, on est en direct, on va en parler, forcément. D'ailleurs, j'en profite.
On n'est pas en direct. Cette émission a été enregistrée. Non. Mais on savait tout ce qui s'est passé hier aux élections.
66,1.
C'est fort. Voilà, c'est très fort. Non, j'en profite parce que je crois que depuis hier soir, il y a un gros stock de roses bleues à vendre. S'il y a des Pakistanais qui nous écoutent, je crois qu'ils font moins 80% en ce moment au FN.
Ils ne retournent pas le couteau dans la plaie.
Tu as souffert, Daniel.
Désolé, Daniel, c'est vrai. Tu as souffert. Non, en direct, on va en parler deux secondes. La très bonne nouvelle est tombée hier soir. Ça y est, on a une première dame. C'est cool. Brigitte Trogneux, qui a très bien fait de ne pas insister pour garder son jeune fille.
C'est vrai qu'on n'avait pas de nouvelle dame avec Hollande, c'est vrai.
Non, mais ouais, non, mais ça
et
fait
si
plaisir.
Si vous regardez France 2 en même temps, ce n'est pas la personne qui est à côté d'Emmanuel Macron. Ah oui, on sait jamais.
Non, mais ça fait plaisir d'avoir une première dame.
Tu fais de la radio qui commande la télé, toi. C'est trop sympa.
J'ai
pour
J'ai peur de rien.
Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils écoutent, donc ils vont aller regarder la télé. Merci, c'est sympa.
Bravo.
Écoute, pour une fois qu'on fait de la promo pour France 2. Et n'oubliez pas Taratata.
Ah tiens, il y a des roses bleues. Bah, je crois qu'ils en ont fourrié une partie. Alors, non mais c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir une première dame parce que sous Hollande, c'était Philae, le Labrador, qui tenait compagnie aux premières dames des autres pays. Là, au moins, sur un peu plus de gueule, ça fait toujours bien sur une photo. Et puis, si jamais ils voient bientôt les Trump, bah, Brigitte et Donald, ils auront les mêmes références. Et puis, Mélania et Emmanuel aussi. Donc ça, c'est bien. Non mais je suis rassuré que ça soit Emmanuel, notre nouveau président, parce que dès hier soir, il nous a fait des vannes. Et je me suis dit, ouf, on va pas s'emmerder pendant 5 ans, quoi. Déjà, on a eu droit à très beau concert des Magic System. Enfin, un concert, ils ont fait 3 chansons. Enfin, ils ont fait 3 chansons, ils ont que 3 chansons. Et c'est vrai que les Magic System reflètent bien le projet des Magic System de la France d'Emmanuel Macron, car n'oubliez jamais que le premier Gaou n'est pas Gaouo et que c'est le deuxième Gaou qui est Niatao. Ah. Les Magic System, de toute façon, eux,
il faut avoir des références là.
Bah oui, il faut avoir la musique. Vous l'avez pas sur votre iPad?
Écoutez, j'avais pas prévu.
C'est bon, coupez-moi cette merde. Alors, non, mais c'est vrai que les Magic System.
Respect, c'est la musique officielle du président de la République. Ça va pas, non? Tu veux garder ton boulot? T'es Radio France, je te rappelle.
Ah oui, merde, d'accord, ok.
Bon, on y retourne. Bon,
non, je pense qu'on n'aurait pas eu la même avec une présidente.
Ah eux, ils n'étaient pas là.
Non,
mais les Magic System, ils sont partout. Dès qu'il y a un micro de Projo et une scène, là, c'était Macron. Ils auraient très bien pu être chez Mélenchon, Fillon,
oui,
Patrick Sébastien. C'est la
ils
même chose.
Bien. Ouais. Ah, ils aiment bien.
Ah oui, ils aiment bien. D'accord, ok. Bon, bah, c'est pas grave. Donc,
non, je parlais de vous.
Toi, non, toi, ils aiment bien.
Tu as l'air de bien les aimer.
Ah oui, non, mais bon.
C'est vrai qu'il comprend rien. Vous avez raison, Nagui.
De quoi, Daniel? Voilà. Donc là, on connaissait le programme de Marine Le Pen aussi, qui est pas à fond sur les étrangers. Mais hier, on a pu remarquer que Macron non plus, bah, même élu, il faisait déjà chier les étrangers. À cause de lui, ils n'ont pas pu aller au Louvre hier, dans le cul les touristes. Voilà. J'imagine le petit couple de Japonais qui rêvait que d'une chose, voir la Joconde de près, après des années d'économie pour venir à Paris. Et au final, on leur donne un concert des Magic System. Ils ont dû se dire, putain, ils ont une drôle de gueule, les ministres. Alors, Emmanuel Macron, c'est notre nouveau président. Ce qui revenait dans toutes les bouches hier, c'est qu'il est jeune. Vous rendez compte, Nagui, 39 ans. Voilà, ça veut dire qu'il
Moi, c'est la première fois que j'ai un président de la République plus jeune que moi.
Mais il vous doit le respect, forcément, dans la cour de récré, c'est vrai. Alors, non, si, on a rappelé hier soir aussi que le plus jeune président depuis Napoléon III, qui avait 40 ans. Enfin, rappelons quand même que l'espérance de vie en 1848 était de 50 ans. Donc ça relativise. Allez, bonne journée à tous.
Merci, Tom Milan. La bande originale, la vie sur France Inter. L'espérance de vie dans Meurtre à Aix-en-Provence, elle est assez limitée aussi, hein, vu tout ce qui s'y passe. Quand même. Vous êtes commandante dans cet épisode, Astrid Veillon. Vous êtes historienne, brillante historienne, Isabelle Vitari. Et vous êtes toutes les deux frangines, même si ça fait quelques années que vous ne adressez plus la parole.
Tu recommences, Nagui.
Non, c'est pas la peine, on fera au montage, on trouvera. Tout ça est sur un fond de Nostradamus. Qu'est-ce qu'on peut dire et pas dire? Parce qu'on a vu la série et le problème, c'est qu'on peut dire qu'il y a
des meurtres.
Il y a des séries. Ouais, c'est une série de meurtres, commandante.
Bah c'est le principe même de la collection Meurtra. On choisit une ville.
Antoine de Fond, qui est Aix-en-Provence.
Qui est Antoine de Fond. Et ouais, avec souvent un personnage historique, ou en tout cas une légende ou quelque chose qui fait partie de l'histoire de cette ville. Donc là, on est vraiment tous les ingrédients, c'est-à-dire la ville d'Aix-en-Provence, Nostradamus qui a vécu à Aix-en-Provence, sur une intrigue policière. Et là, la nouveauté un petit peu, c'est ce rapport familial qu'il y a entre les deux enquêtrices, parce qu'au résultat des courses, Isabelle aide
l'historienne va quand même aider, puisqu'on on retrouve des parchemins ou des extraits de phrases de Nostradamus.
Exactement.
Et de là on finit par déceler ce qui motive la série de meurtres. Voilà, c'est
exactement ça, mais c'est vrai que le rapport en, la famille, si vous voyez le lien, j'arrive pas, c'est l'8 mars, excusez-moi, l'8 mai.
C'est vrai que cette émission a été enregistrée le 8 mars. Ouais, c'est vrai.
Pardon.
Très
vrai, la nouveauté, enfin, je trouve que ce qui fait la richesse de ce film, entre guillemets, c'est tout le conflit familial qu'il y a autour. Voilà. Et l'enquête, j'arrive pas. Isabelle, c'est à vous.
Je vous écoute, Isabelle.
Je vais faire mieux.
On va dire qu'il y a Andrea Ferréol qui joue le rôle de votre maman, toutes les deux.
Terrible
maman, ouais.
Horrible.
Ouais, elle fait peur.
Ouais. On la souhaite à personne, celle-là.
Non, c'est sûr.
Mais enfin, c'est un rôle que joue Andrea Ferréol.
Elle est insupportable.
Il y a Christophe Rousseau, Jérémy Covillo, François Ferro, Leto, Renaud Lémans, Simon Guibard et Yann Lera. Voilà pour le casting, avec vous deux qui portez vraiment cette série. Ça commence avec un cadavre crucifié. Les images sont assez trash, on va dire.
Il aime bien ça, Claude-Michel Rome, le réalisateur. Moi, c'est le 7e film que je fais avec lui. Il aime bien aller au cœur des
mais
images.
C'est votre premier meurtre à toutes les deux, Isabelle.
Absolument. Oui, on n'en fait qu'un par acteur. Je pense pas qu'il y ait des acteurs qui
aiment bien faire meurtre. Nous, on reviendra,
nous, je suis sûre.
Mais sinon, que c'était des assassins. On va faire tous les meurtres.
Est-ce que c'est la première fois, Isabelle et Astrid, que vous jouez ensemble?
Ben ouais.
C'est vrai?
Une belle rencontre. Ouais, absolument.
D'accord.
Si, c'est vrai, Nagui, je te jure.
Non, mais je pensais que vous étiez que vous avez déjà fait des...
Astrid ne dit rien, ça s'est moins bien passé. Bon.
Ah, pas du tout, pas du tout. Commencez pas à essayer de foutre la merde, hein. Ça s'est très très bien passé et j'ai plein de compliments à envoyer à Isabelle, parce que c'est une super nana, quoi. Mmh. Et belle comédienne.
Pardon. Alors, ça fait 4 ans maintenant qu'il y a ces téléfilms sur France 3 qui sont de véritables cartons. Chaque fois, plus de 4 millions de téléspectateurs suivent ces meurtres en série. Est-ce que, honnêtement, ça met une pression en se disant, si on fait moins de 4 millions, on va nous dire ouais, c'est à cause de nous ou pas? Franchement.
Ben oui, un peu. Ouais, moi je connais des copines qui en ont fait d'autres. Ouais, moi j'ai fait ça. Bon, on va voir.
Moi j'ai fait tant.
Ouais, moi j'ai fait tant. Et toi? Bah, nous on a quand même en face l'Eurovision
et The Voice.
Merci. Au revoir. Merci Astrid Veillon. Merci d'avoir participé.
Moi, comme j'ai pas de copines dans le métier, j'ai pas pu faire comparaison.
quelqu'un de sang.
Elle m'aime pas. Mais moi non plus d'ailleurs. Mais c'est non. On a toujours la pression dès l'instant où on passe à la télé. On aimerait ne pas l'avoir, mais on sait très bien que si on fait une mauvaise audience, on va avoir moins de boulot. Et si on fait une bonne
audience, c'est vraiment aussi direct que ça.
Non, mais parce que moins la télé peut-être qu'au cinéma. Au cinéma, c'est plus violent, mais à la télé, on le ressent un petit peu.
Mais là, c'est une série. Vous n'êtes pas voué à jouer dans d'autres épisodes, c'est pas très grave.
Non, ça va.
Oui, mais on a d'autres projets. On fait pas que les meurtres. Moi, j'ai Tandem aussi qui arrive, par exemple, en juin. Et c'est vrai que
c'est aussi un succès.
Absolument. Le pilote. Ouais. Il n'y avait pas beaucoup de concurrence, le genre du pilote. On va voir ce qui se passe là. Mais j'en suis très très fière en plus de cette série, vraiment.
Ça a été un succès. Vous êtes encore commandant de police dans...
J'ai dû faire un truc dans une autre vie, moi. Je suis toujours fou. T'es comme ça.
Obligé de travailler avec votre ex-mari. Là aussi, il y a une histoire de famille.
Super, Stéphane Blancafort, voilà. D'ailleurs.
Et le tournage de la saison 2 démarre là, la semaine prochaine.
Oui.
Enfin, non, dans 15 jours.
Le 7 juin.
3 semaines.
Dans 3 semaines.
Un mois.
On n'est pas loin du mois.
Non, mais blague à part, donc ça veut dire bankable or not bankable. Vous avez vous faites un carton samedi prochain. Il y a des chances que les fictions du service public vous regardent d'un œil plutôt tendre.
Si... Comme vous, Nagui. L'émission marche et voilà, vous devenez le roi du pétrole.
Alors. Non. C'est une région un peu raciste quand même, côté roi du pétrole.
C'est une expression, c'est une expression.
Une erreur. C'est un dérapage.
C'est pas normal. Combien d'erreurs on sort?
À moins deux.
À
moins deux.
Maintenant
tu sors.
Oh mince, c'est ça. Oh mince déjà.
Astrid Veillon, bonjour.
Oui, bonjour.
Depuis qui sait que Marine est éliminée, là il fait le malin. Je peux dire que jusqu'à hier soir, jusqu'à 19h55. Alors entendez-moi, l'Égyptien.
Oh là là.
Après la confiance.
Oui, non, c'est toujours un peu.
J'allais faire la vanne du texto, mais je vais pas la faire. Bon.
C'est quoi la vanne du texto? On va la faire.
Revenons.
Si, t'es obligé maintenant.
Montre-moi où je suis obligé.
Nagui, on a toléré ce pull, il faut la vanne du texto.
Il fait pas mon pull.
On dirait du crépi, mais en pull.
C'est vrai.
Un crépule.
Un crépule.
C'est le crépi du deuil, en fait.
Allez, tout de suite, les Magic System.
C'est un peu n'importe quoi cette émission. Revenons à ces cadavres.
Lesquels?
Ceux de meurtres en série. De meurtres à Aix-en-Provence.
C'est vrai qu'ils sont impressionnants. C'est vrai que le premier corps.
Moi, je trouve ça super
violent. Assez saisissant tout d'un coup. Et
c'est
je trouve que ça. Non, ça a le mérite de vous plonger vraiment.
J'étais pas non plus.
Ça a vraiment le mérite de. Non, il a pas vu.
Pardon.
Ça a le mérite de vous plonger dans une atmosphère très angoissante. Et la succession comme ça des meurtres qui vont advenir avec la phrase qui annonce tout et où vous, en tant qu'enquêtrice, vous essayez d'anticiper ce qui pourrait bien se passer, on est vraiment plongé dans l'intrigue.
Je crois qu'il y a vraiment, il y a un vrai rythme. C'est pas lent, c'est pas, il y a un vrai rythme. Et c'est vrai que généralement, le service public essaye de pas montrer trop de sang, trop de machin. Là, on a fait un peu l'inverse, quoi.
Ouais, et puis, il y a deux lectures. Il y a évidemment l'enquête d'un côté, et puis il y a toute cette famille qui s'imbrique avec la mère. Il y a le frère aussi qui est présent, et on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a comme secret familial? Qu'est-ce qui est, c'est quoi ce poids?
Voilà.
C'est quoi ce poids? Et quel est le rapport? Parce qu'on se dit, bon, il y a forcément un rapport entre les meurtres et le problème de la famille, mais ce ne sont que dans les dernières minutes où on finit par tout comprendre. C'est ça aussi.
Non, il nous tient bien en haleine, je crois, jusqu'au bout, Alors nous, on va pas dire l'inverse. C'est extraordinaire, c'est magnifique, c'est le meilleur d'ailleurs.
Est-ce que vous avez tourné dans l'ordre chronologique de les scènes, pas du tout.
Non.
Rien
non,
à voir. Parce qu'on n'a pas besoin d'être dans un état d'esprit particulier de se dire.
C'est un métier, Nagui, tu sais. Avant chaque scène, on se remet dans.
Attends, à moi trois.
Oh non, je ressors.
Non, surtout tu reviens plus.
Mais on tourne jamais dans l'ordre, Nagui.
Oui, ça sert.
On a eu quelques réalisateurs ou quelques comédiens qui disaient.
C'est un luxe.
C'est un confort. Manuel Poirier, par exemple, qui nous expliquait l'importance.
Bien sûr,
de tourner dans l'ordre. À côté de ça, dans votre actualité, Isabelle Vitari, vous reprenez, vous démarrez plutôt un nouveau spectacle. Vous allez jouer tous les jeudis du mois de juin à la Nouvelle Scène à 21h30. J'ai eu la chance de le voir, ce spectacle où vous êtes juste une mère. Indigne, horrible, mais c'est une espèce d'exutoire pour les parents en se disant mais oui, on aimerait tellement être odieuse comme elle l'est des fois avec ses propres enfants. C'est très personnel, même si évidemment tout ça tous les traits sont exagérés.
Non, exactement. Elle est comme ça. Je l'ai vue pendant un mois, elle est horrible. D'ailleurs, elle ressemble à Andrea Ferreira, là, je vous jure.
C'est bon, sa fille.
Oui. Elle s'inspirait de moi, Andrea. Ouais.
Ce spectacle, alors
dans ce spectacle, je me suis plus.
Isabelle Vitari se livre.
Voilà, je me livre plus et donc je parle un peu de mon enfance avec mon père qui était policier et qui nous a fait flipper toute notre enfance. C'était Vigipirate toute notre enfance. Il était vraiment très très flippé. Je parle aussi donc de mes enfants, de mon rapport à mes enfants et de mère indigne. Parce qu'il me restait plus que ce créneau, vu que ma mère était la maman parfaite. C'est vrai, j'ai une maman formidable. Donc moi, je suis nulle. Vraiment, je suis nulle. Donc voilà, je raconte un peu tout ça.
En tout cas, je confirme que... je confirme que les enfants d'Isabelle ont intérêt à avoir une sacrée dose d'humour, parce qu'elle est extrêmement drôle et trash avec ses enfants. Du style, tu finis ton assiette ou je t'abandonne sur l'autoroute. Quoi. C'est le genre de phrase que j'ai déjà pu entendre.
Est-ce qu'il finit l'assiette?
Oui, bien sûr. Ah voilà, bah, il y croit. D'ailleurs, il faut que j'aille les chercher à Saint-Pierre depuis 6 mois.
Et quant à vous, Astrid, à part la reprise donc de cette série Tandem, vous écrivez votre nouveau roman.
Oui.
Il faut dire qu'il y a eu, en termes d'écriture, il y a eu aussi de la pièce de théâtre qui s'est extrêmement bien passée. On en reparlera tout à l'heure. Mais vous aimez ça,
L'écriture, ça commence à... Alors, c'est très laborieux pour moi, hein, parce que j'ai quelques lacunes. J'ai découvert la lecture sur le tard, j'ai pas fait d'études. Enfin, voilà, j'avais pas un terreau propice à l'écriture. Et j'ai commis, donc, cette fameuse pièce de théâtre. Je dis vraiment commis, parce que c'était un pur accident, qui fonctionne encore, qui fait un carton
en Italie. Il paraît qu'à l'étranger,
c'est un truc de fou. Et moi, mais moi, je dis, mais c'est pas possible.
La salle de bain.
C'était énorme. Voilà. Et alors là, c'est Il Bagno. Mm-hmm. En italien, non.
Normal.
Et c'est vrai que le succès de la salle de bain m'a motivée en fait pour écrire un livre. Et j'ai rencontré chez Ardisson un éditeur qui m'a dit bah pourquoi vous. Et puis voilà, ça s'est fait. En fait, c'est pas quelque chose que je suis allée chercher. C'est quelque chose qu'on m'a amené régulièrement. Et c'est vrai que je m'éclate, mais c'est difficile.
De quoi va parler ce nouveau roman?
C'est une grande, grande histoire d'amour. Un peu d'amour, ça va faire du bien à tout le monde.
Grande, grande.
Ouais, ouais, mais grande.
On est d'accord.
Hein,
mais vraiment grande. Ouais, un grand, truc, hein. Genre, ça, ouais, ça passe pas là, quoi. Ça passe pas là. D'accord, ouais, quoi, un truc.
C'est
dingue. On reparle évidemment de ce meurtre à Aix-en-Provence. Ça sera diffusé sur France 3 samedi 13 mai à 20h50, incarné, porté par Astrid Veillon et Isabelle Vitary, qui sont nos invités. Voici l'humeur de Nora Mzaoui.
Non. Merci.
La bande originale, la vie sur France Inter.
Écoutez, je suis d'humeur soulagée, voilà. Mais alors soulagée comme 66,1% de la population, je me sens mais soulagée, mais tellement soulagée à l'heure où j'écris cette chronique, donc 21h45, donc à cette heure-ci, c'est 65,8% des Français, tellement soulagée que le mot soulagée est tellement précis, parlant, concret, qu'il me paraît presque faux. Soulagée. Attends, force de répéter, j'ai l'impression qu'il n'existe plus. Soulagée. C'est chelou ce mot-là, soulagée. C'est chelou. C'est un peu comme à force de fixer une étoile dans le ciel, elle finit par disparaître. Sauf que là, ça disparaît. Pas, je suis mais soulagée. Mais alors, mais tellement soulagée. Bon, et à l'heure où j'écris cette chronique, je suis un peu saoule aussi, voilà. Saoule mais soulagée, ouais, pardon, je suis bourrée. Pas là à 11h20, hein, mais à 21h45, je suis bourrée, enfin un peu saoule. Bon, sinon, à part ça, allons-y, cette chronique, qu'est-ce que je vais bien pouvoir écrire à part ça la réalité, c'est que j'ai aucune envie de parler de politique, parce que bon, si je suis soulagée de pas avoir au pouvoir, ils sont dans les campagnes, ils sont partout. Je suis aussi un peu soulagée de plus avoir de commentaires, de débats politiques sur Facebook, à la télé, sur Twitter, dans le bar, chez moi, au tabac, toute la journée, partout. Franchement, il était temps que ça s'arrête pour notre santé mentale. Il était temps que ça s'arrête. Ah bah c'est la peste ou le choléra. Ah bah de toute façon, on a quand même le droit de pas aimer un candidat sans se faire insulter. On m'a jamais empêché d'aimer le chocolat, ce que je sache. Pardon, c'est quoi le rapport? Ok, le racisme, mais l'ubérisation. L'ubérisation. Eh bah si c'est pas maintenant, c'est dans 50 ans. De toute façon, ce sera la merde. Alors autant que ce soit la merde tout de suite et que ça pète tout de suite. Et le Brexit finalement. On ne sait pas le Brexit, mais c'est sûr qu'il va gagner. Le banquier. Enfin ça c'est sûr. En attendant, Clinton c'était sûr et c'est Trump qui est passé. Hein. Bref, je suis soulagée. Je vous jure, le dernier commentaire que j'ai eu c'était ah bah moi je vote pas. Hors de question, madame, je vote pas. Je suis pas le seul. Il va y avoir un taux d'abstinence record. Un taux d'abstinence vraiment. C'est là que tu te dis que franchement tout prend un sens et qu'avec un peu de chance la vie est bien faite et que ces gens-là ne se reproduisent pas en fait. Donc, alors bon, je dois le dire, ça fait un petit quart d'heure que j'écris cette chronique, un petit quart d'heure sans avoir bu une goutte et ça y est, ma vraie nature me revient. Un peu d'angoisse là, tout à coup, un peu d'angoisse. Je me dis, je les entends me dire soulagée, mais ma pauvre, mais tu vas voir, mais soulagée de quoi, mais tu vas voir ce qui nous attend dans 5 ans. Tout à l'heure dans le taxi, donc tout à l'heure d'hier, le chauffeur m'a dit, moi j'avais voté Fillon, madame. C'est dommage, il a perdu. Au second tour, je me suis abstenue et vous verrez, madame, dans 5 ans. Dans 5 ans, ce sera pire. Vous penserez à moi et vous direz, ah j'ai eu tort. Le chauffeur de taxi avait eu raison. Et là, je me dis deux choses. La première, mais enfin, même si c'était pire dans 5 ans, à aucun moment je me dirais « Ah ouais, j'ai été con, j'aurais dû faire de la merde dès le début, j'ai été con !» Je veux dire, ça n'a pas de sens, ça s'appelle se saboter. C'est comme si je me disais « Ah ouais, j'ai peur de plus avoir de boulot dans 5 ans. Ah bah tu sais quoi, j'arrête tout de suite. Allez hop, j'arrête tout. Attends, autant que ça pète tout de suite, merde. » Ou alors que je me disais « Cet hiver, je vais encore m'empiffrer de la raclette et faire n'importe quoi et me prendre 5 kilos dans la gueule. Et bah autant commencer à bouffer, à m'en foutre plein la gueule dès maintenant. » Oui, bon si, ça je le fais, ça. Et donc la deuxième chose que je me dis, c'est à quel moment tous ces gens commençaient à m'appeler madame. Non mais sérieusement, je veux dire, il y a un truc qui s'est passé, j'ai pris un coup de vieux pendant ces élections, je veux dire, est-ce que j'ai l'air un peu fatiguée? Oui, je suis un peu fatiguée, mais ça va, pardon, ces dernières semaines ont été stressantes pour tout le monde. Bref, tout ça pour dire que je vais m'arrêter là, parce que si je me couche pas très vite, demain j'aurai la gueule de bois, et donc ici ce sera compliqué, et oui, parce que mamie se couche tôt et mamie ne tient plus l'alcool, et en même temps, je préfère définitivement avoir cette gueule de bois-là, celle d'une soule âgée, que n'importe quelle autre gueule de bois.
Oh, soulagée. Nora Mzaoui, on parle donc de meurtre à Aix-en-Provence, meurtre au pluriel, c'est important parce qu'il y a vraiment la notion de série, sur la toile de fond de l'historienne et de Nostradamus. Quelle est d'ailleurs la part d'histoire vraie dans ces meurtres faux, entre guillemets?
Tout est, ce qui a été écrit sur Nostradamus est vrai? Oui, oui, Claude Michel Rome a bien travaillé.
C'est un passionné de Nostradamus. Ouais, ouais. C'est un passionné de Nostradamus, donc je pense qu'il a, il a fait du vrai.
Tout est vrai.
Dans le concret.
D'accord, donc tout est vrai.
L'incunable était vrai. L'incunable.
Non, l'incunable n'était pas. Non, lui, il était de fiction. Un incunable de fiction.
Donc c'est un. Alors l'incunable, c'est un livre qui a été écrit avant. C'est ça, 1500.
Post-impression, voilà.
C'est ça. On pourrait préciser, parce qu'un cunam n'est pas un gros mot. C'est un gros livre des fois, mais c'est pas un gros mot en l'occurrence. Donc les meurtres, est-ce qu'on peut raconter quand même qu'il y a un lien
Et vous l'avez dit.
Spoiler.
Un lien entre quoi c'est compliqué.
Ouais.
C'est compliqué, mais vous l'avez plus ou moins dit tout à l'heure. Hein.
Ça avait un rapport avec la famille, j'ai dit.
Là, on l'a dit.
Non, c'est un rapport avec la famille.
Oui,
non,
oui, c'est pas forcément.
Déjà, vous êtes deux sœurs enquêtées sur
Adam.
Non,
oui. tais-toi.
Non, j'ai envie de le voir.
On peut rien dire.
Tout est lié. Voilà, tout est lié.
Ouais. Ah ouais, mais alors, et comment donner envie aux gens de le regarder aussi
c'est extraordinaire, c'est fabuleux, faut faire. Voilà,
oui, franchement,
c'est le meilleur.
En même temps, on se doute bien que tout est lié à partir du moment
bah oui.
où on est toutes les deux, bien sûr.
Enfin, voilà, c'est vrai. On dévoile rien pour le moment.
C'est pertinent.
Ok, d'accord. Nous allons évoquer quelques.
Non. J'ai fait exprès, je suis confus. Hein. Je suis désolé. Arrête.
Nous allons évoquer quelques dates de votre carrière et tout ça mise en musique avec ce que vous écoutiez, par exemple. Dans
C'est du lourd en plus.
Par exemple, Isabelle Vitary, fin des années 90, début des années 90, écoutez.
Excellent.
Gland Medeiros.
Gland Medeiros.
Comment tu dis?
On dit pas Gland? GLEN, tu penses comment toi?
Glenn.
Ah, Glenn. Okay, mais Gland,
c'est le fils d'incunable. Oh, je me fatigue tout ça.
Ça évoque quoi pour vous cette musique?
Le slow, ma passion, mon premier slow. Où il y a la joue, on commence comme ça, on se tient par les épaules et ensuite il y a la joue, vraiment, on se tient comme ça un peu crispé et là la joue qui arrive et toc. Oh, mais personne maintenant ils connaissent plus ça les jeunes de maintenant.
Ah
la
bon,
joue contre la joue,
mais ils font slow,
c'est fini.
Facebook, ça. Bah.
Bon, c'était ma passion.
Qu'est-ce
qu'ils
font?
Ben,
direct. Dans le lit. Dans le lit direct.
Tinder.
Alors que nous, c'était joujou, quoi.
Oh, ouais, vous avez 9 ans.
Non, c'est violent.
Ouais, joujou.
Non, ils font pas direct. Ils chatent,
oui,
ils font plein d'autres trucs.
Oui, mais il n'y a pas ce rapport.
Il n'y a pas ce petit rat.
C'était bien, les slows.
C'était bien.
Oui.
Je ne veux pas jouer les vieux cons, mais c'était pas mal.
Nostalgique des slows.
C'est vrai que ça fait un peu vieux con, quand même.
Ils font autre chose qui est très bien aussi.
On se rappelle tous de la première fois où on a fait un bisou. Oh là là, slow, non,
oui. Bah non. Je sais, ça correspond à
mais c'est pas la même génération, ils sont beaucoup plus jeunes que nous.
Je ne verrai jamais.
Ils sont beaucoup plus jeunes que nous, Nagui.
Mais non, mais forcément, Leïla.
Ah non.
Ah ouais.
Genre, t'as jamais dansé un slow avec un garçon qui t'a galoché pendant le slow. Jamais.
Mais non, mais elle est plus jeune.
Et qui faisait palpiter.
Non, il y a.
Nora.
Non, moi j'ai dansé des slows, mais j'ai pas roulé des pelles pendant les slows.
D'accord. Ok, bon ben.
Mais parfois on se disait on peut faire un smack de 3 secondes.
Oh, le coup de vieux que je
un
me prends
smack
là.
De 3 secondes,
moi aussi, ouais. Comme toi.
Toi aussi, Isabelle ça va, ça me rassure. Isabelle est jeune, ça me rassure. Heureusement qu'il y a quelqu'un de jeune qui se rapproche un peu d'une histoire normale. Donc, vous avez débuté dans un. En fait, c'est votre maman qui vous a poussé au théâtre, c'est ça,
Isabelle? Ah, maman était très très contente que je m'y mette, mais c'est surtout ma prof de danse qui, en me
de
voyant
danse
danser classique, en me voyant danser, a dit à ma mère.
C'est drôle, elle devrait faire du théâtre.
Exactement.
Elle perd son temps ici.
Oui.
Elle perd son temps totalement.
Non, mais quel rapport?
Ben je sais pas, faudra lui demander. Elle s'appelait Madame Crier. Et elle nous criait dessus d'ailleurs beaucoup.
Non, mais blague à part, vous avez bien dû.
Mais j'étais. Clown, hein. Non, j'étais. Mais non, sincèrement, je ne sais pas. Elle disait que j'étais brouillon, mais gracieuse. Ma vie entière. Gracieuse, mais brouillon. Voilà, c'est tout moi.
Ok. Est-ce que vous faisiez déjà rire vos camarades à 9 ans?
Je crois. Je n'ai pas trop conscience de qui j'étais à cette époque-là.
Ok. Par contre, vous vous souvenez être allé au conservatoire, c'est un conservatoire de quartier?
Oui, à Drancy, dans le 93.
D'accord. Et ensuite, il y a eu les différents cours plus célèbres.
Exactement, cours
célèbres.
Simon, cours Florent, des cours aussi chez Raymond Aquaviva, voilà. Et après, voilà, jusqu'au bac, et je devais continuer à aller, oui, au lycée, ça c'est normal. Mais après, j'ai dû aller à la fac pour faire plaisir à mes parents.
Une licence de lettres?
Oui.
Parce que à l'époque, vous rêviez de faire quelle carrière?
Bah, plutôt comédienne. Ça avait l'air d'être assez logique, oui.
Et vos parents étaient d'accord? Enfin, il n'y avait pas de conflit familial?
Mais oui, j'ai jamais vraiment galéré à me payer mes cours. Ils m'ont payé mes cours. Ma mère m'a amené en voiture de Drancy jusqu'à Paris pour les cours Simon. Enfin, adorable, quoi. Mais elle m'a dit, par contre, tu continues tes études au cas où, parce que les lettres, elle me disait, ça t'amène à tout. Et là, tu peux devenir comptable. Parce que ma mère a fait une...
Elle
a été comptable. Ouais, elle me dit, tu vois, ça t'amène à tout. J'étais là, waouh. Bon, ben, je vais faire des lettres, alors. Et voilà, ça m'a amené à être comédienne.
Très bien. Après le cours Florent, vous avez formé une troupe comique, les célèbres Quiche, enfin célèbres pour nous, dont Aurélie. Non, mais parce qu'il y avait Aurélie qui faisait partie. Aurélie qui maintenant compose le duo Brigitte avec Sylvie.
Excellente comédienne, elle était très 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 forte. Mais elle aussi très très forte chanteuse. Et voilà, je crois qu'elle préfère être chanteuse.
Les Quiche, vous avez essayé de faire des programmes courts, d'aller voir des chaînes de télévision.
Oui,
de...
bah oui, ils sont venus même. Ils sont venus nous voir. Nous, on faisait des courts métrages. Et il n'y avait pas encore YouTube à l'époque, comme quoi. Donc avec notre petite caméra DV, on faisait des conneries. Et le seul endroit où on les montrait, c'était des festivals de courts-métrages DV, quoi. Et on gagnait des prix, Et on est venu nous chercher pour faire des petites pilules à la télé sur Canal+, tous les dimanches. Et on a fait un long métrage.
Des pilules, vous
bah, je sais pas.
C'est une pastille.
Ah, ça n'existe pas, pilule?
Non.
C'était magique.
Non, mais vu la facture, c'était une pilule.
Je retiens une pilule. Décidément, j'arrête pas de rentrer.
On faisait des cartouches et.
Pardon. Non, ça, c'est Georges Clooney avec. Les capsules, c'est Nespresso. Ça n'a rien à voir. Bref, donc vous faisiez des pastilles.
Eh oui, on faisait des petites pastilles.
Remarque, c'est drôle.
Pardon, j'aurais pas dû le relever.
Si, au contraire.
Non, comme ça, j'ai appris quelque chose. Merci.
La même, dans ces mêmes années, Astrid Veillon, elle, écoutez. C'est quelle année? Là, on est globalement en 87, non?
87?
Ouais, d'accord. Début des années 90, peut-être.
Ouais, plus ça, ouais. D'accord.
Ok, vous quittez le domicile familial, vous étiez adolescente. L'enfance était plutôt tendue,
Tendue, oui. C'est pas moi qui ai quitté le domicile conjugal, c'est ma mère qui a quitté le domicile conjugal.
Familial, oui. Vos parents se sont séparés, et si je parle de ça, c'est parce qu'il y avait un vrai souci dans la séparation, c'est-à-dire le fameux week-end, un week-end sur deux avec papa, le reste du temps avec maman, à tel point que... Ils ne vous appelaient pas par le même prénom l'un et l'autre. Je trouve ça totalement dingue.
C'est un truc de fou. Ouais.
Bah, ça prépare peut-être déjà à jouer
des
rôles.
Je crois que c'est de là est née ma vocation. Ouais. Ouais. Je crois, puisque effectivement.
Vous étiez Julie par moment et Astrid de l'autre.
Dès l'âge de 1 an, j'ai été Julie la semaine et Astrid le week-end. Ouais. Et avec des éducations complètement différentes, avec des façons de penser complètement différentes. C'était très particulier. C'est-à-dire que depuis 1 an, je suis folle. En fait, voilà. Depuis l'âge d'un an. Ouais. Il y a un dédoublement de personnalité qui s'est fait, mais dans les vêtements, enfin, c'est très, très, très particulier, quoi.
Ah, vous n'étiez pas habillée pareil par maman que par
non,
papa?
Non, moi, j'avais un papa qui était très, catholique pratiquant, ma mère qui fumait des pétards, enfin il y avait une espèce de truc comme ça qui était vraiment à l'opposé.
Bah, les deux pratiquaient mais pas la même chose.
Exactement, et puis avec ces deux prénoms, et je les gardais pendant très longtemps, et c'est vrai qu'à 3 ans, quand on me demandait qu'est-ce que je voulais faire, je voulais être actrice, quoi, parce que je crois que c'était quelque chose que j'avais appris à jouer, et c'était quelque chose qui était en moi, et heureusement. D'ailleurs.
Et c'est à Aix-en-Provence, justement, alors on revient là avec la série, c'était moins trash, vous, dans votre vie, heureusement, vous réalisez votre...
Non, mais en même temps, ça va bien, quoi. Oui, vous voyez ce que je veux dire, absolument. J'en ai vraiment...
Vous venez de dire ça en criant, quand même. Hein.
C'est vrai.
Vous venez de dire ça en criant.
Non, mais voilà, je suis pas dans la victimisation du tout, quoi.
Il y a un léger filet de sang là, qui est sorti de la bouche aussi, mais ça va
si
bien.
Vous pouviez lâcher l'oreille de Nagui, là, ça nous arrangerait, on a encore besoin de lui.
Vous avez passé quelle période de votre vie à Aix-en-Provence?
En fait, je suis arrivée à Aix à 10 ans jusqu'à 19 ans, 20 ans, âge auquel je suis partie sur Paris et je suis retournée.
Donc c'est à Aix que vous avez pris vos premiers cours de théâtre, par exemple?
J'ai jamais pris de cours de théâtre.
Ah, pardon.
Ça se voit d'ailleurs.
Justement, non.
Non, mais enfin, si, parce que quand je regarde les débuts de ma carrière, c'est irregardable quand même. Faut être...
Non, moi, je vous adorais dans Extrême Limite.
Oui, Extrême Limite, mais c'était moi, Extrême Limite. Donc, du coup, voilà, j'avais pas besoin de jouer. Ben, j'avais pas besoin de jouer. C'était la rebelle avec la fille un peu boulotte qui envoyait chez tout le monde.
Oh, bah, boulotte.
C'était moi.
Bah, non, pas boulotte.
Ah, si, j'étais boulotte. Ah, si. Bah, regardez à côté de Tonya Kissinger. On me mettait des. Si, j'avais découvert la régie. Et comme j'étais boulimique.
dû à ces dédoublements de personnalité, mais c'est... dès que j'avais découvert la régie, j'allais directement à la régie me goinfrer.
Alors, il faut dire, la table régie, c'est là où il y a toujours des biscuits...
Des gâteaux, des bonbons...
Industriels, des trucs faits avec des carcasses d'animaux morts, des crocodiles de toutes les couleurs, tout ça. Enfin, des...
voilà, qu'est-ce que très mauvais pour la santé. Qu'est-ce que tu veux mettre sur la table de régie? Tu peux pas mettre du tofu et du quinoa? Tu peux.
Alors, moi,
sur mes tables régies, il y a des fruits secs, il y a du thé vert, il y a des fruits.
Personne n'y touche.
Et ben, tout est pour moi.
C'est économique en fait. Allez. Et donc j'avais des notes de TF1
de janvier à octobre.
Empêcher Astrid d'aller sur la table régie.
Il y avait des notes quoi
de
la chaîne.
C'est à vue d'œil. Enfin bon bref, peu importe. Donc sur Extrême Limite, ça passait bien parce que j'ai vu là par exemple il y a un téléfilm que j'ai tourné je ne sais plus en quelle année. C'était pathétique vraiment. J'ai dit à mon homme on change de chaîne, c'est irregardable quoi. Et je pense justement
c'est-à-dire
de
vous revoir ça vous fait mal.
Ah mais c'était... Oui, parce que c'était vraiment pas bon.
D'accord.
Et en fait, je crois que j'ai appris mon métier très tard, après le début de ma carrière, puisque j'ai appris en jouant la salle de bain, en fait. Donc j'ai fait 10 ans de carrière, tout à l'instinct.
Et vous avez soigné, ça se voit, cette boulimie, puisque vous avez juste un corps parfait aujourd'hui.
Je vais mieux, on va dire. Je vais mieux. Mais en 2004, j'ai commencé à faire du théâtre et j'ai vraiment appris à travailler mes personnages à ce moment-là, quoi. Et je trouve que c'est beaucoup plus regardable maintenant, en fait.
Parlez-moi Nathalie Mbruglia, vous avez choisi Thorn. Pourquoi? Ça évoque quoi cette musique pour vous?
Parce que je l'écoutais en boucle à l'époque, tout simplement. Et que c'est une femme que je trouve, enfin une jeune femme que je trouvais très très jolie. J'aimais bien son grain de voix. Voilà, vous m'avez demandé.
Vous étiez, quand vous étiez ado, vous étiez fan d'un chanteur ou d'un groupe? Il y avait des posters dans la chambre de quelqu'un?
Non.
Non, pas du tout?
Non.
Isabelle non plus?
Non, j'avais pas le droit.
De quoi? De mettre des posters?
Ça
abîmait le papier peint, c'est
ouais,
quoi?
J'avais pas le droit.
La pâte à fixe, c'est pas mal, la pâte à fixe.
Non, j'avais pas le droit.
D'accord, très bien.
Les taches.
En 2002, Astrid Veillon, écoutez Keen. C'était cool, ça.
C'est cool, mais ça donne un peu envie de chialer.
Non, t'as pas envie de chialer.
Un peu.
Non, c'est une musique de jour férié.
Ah, bah ça donne envie de chialer, genre.
T'as envie de chialer aujourd'hui?
Un peu. Mais là, mais bon, après.
T'es soulagé ou t'as envie de chialer?
Bah, se font un câlin.
Je me sens un peu. Elle a la gueule de la retombée, je crois.
Ouais, il y a Nagui qui est en train de faire un câlin à Nora Mzaoui. Nora, la dernière fois qu'il a fait un câlin, 9 mois après, il y a eu un enfant.
Quoi?
Non. J'ai fait un hug.
Rien à voir. En descente.
Donc Everybody's Changing, c'était Keane en 2002. Vous jouez dans des épisodes de la série Fabio Montal avec Alain Delon. Ça s'est passé comment?
C'était en 2002, Fabio Montal?
Je crois, non? Si, c'est en 2002.
Non.
Si.
Ah bon, d'accord, ok. Bien, très bien. Non, mais c'est vrai en plus.
Enfin,
c'est
peu
très...
importe, que ce soit en 2002 ou en 2003.
Oui, c'est ça. Oui, bien
ça
sûr.
Ça s'est passé.
Bah oui, très bien.
Ça doit être impressionnant quand même de se retrouver face à Delon.
Mais c'est marrant parce qu'on en parlait tout à l'heure dans la loge. C'est
pourquoi
très...
vous aussi, Isabelle, vous êtes retrouvée devant Delon?
Devant. Non, je l'ai juste croisé une fois. Il était derrière moi, il m'a fait un bisou sur la tête. Voilà. Ah bon, c'est le seul.
Ah, il fait ça à tout le monde, moi aussi, il me le fait quand on se croise.
La première fois que j'ai joué, la première scène, c'est. Je la ramenais pas, quoi. J'étais très admirative, mais en plus, comme je jouais une scène où j'étais un petit peu bourrée, j'avais un peu picolé avant et tout, du coup, ça m'a.
Vous avez le track ou vous aviez le track?
Je l'ai toujours. Là, j'ai fait samedi soir, j'ai fait un spectacle d'improvisation avec la Ligue d'impro d'Aix-en-Provence. Il faut quand même savoir, c'est un métier.
Et oui.
C'est-à-dire que moi, je savais pas faire. Et j'étais dans un état mais catastrophique au
départ. Donc vous êtes très Aix-en-Provence en fait dans la vie. Vous avez grandi à Aix-en-Provence, vous tournez Meurtre à Aix-en-Provence et vous faites de l'impro à Aix-en-Provence.
Je vis là-bas moi.
D'accord, non, mais vous êtes très, toujours aujourd'hui.
Je suis plus du côté de Lourmarin maintenant, mais c'est pas très loin.
Donnez pas non plus l'adresse forcément à
non,
l'antenne.
Non, c'est ça,
mais,
d'accord. C'est
ça. Très bien. En 2003, vous vous lancez dans l'écriture d'une pièce de théâtre dans laquelle vous parlez de la crise de la trentaine. La mise en scène est confiée à l'excellent Jean-Luc Moreau. Ça s'appelle donc La Salle de Bain. Ça a été une expérience. Qui vous a poussé à écrire une pièce de théâtre? Parce que la démarche d'écrire un roman, on peut croire, on pensait qu'il y a une part d'autobiographie, une forme d'exutoire et même de thérapie à écrire un roman. Pièce de théâtre, c'est quand même quelque chose. C'est un exercice assez particulier, non?
Alors, quand j'ai commencé à l'écrire, je ne savais pas que j'écrivais une pièce de théâtre. Ce qui s'est passé, écoutez bien, la vie.
Pourquoi? Parce
j'étais à un mariage.
On écoute bien tout le temps. Des fois, t'as l'air distrait. Non, j'écoute bien.
Non, elle a pas tort. J'étais à un mariage.
Oh, il y a François Hollande
j'ai
qui sort
discuté...
des mains.
J'ai discuté. Oh, vous êtes dégueulasse, vous.
Non, je rigole pas. On écoute bien.
J'étais avec Marie Fugain, Laurette Fugain.
Oui.
On se plaignait qu'il n'y avait pas de rôle pour les nanas comiques, etc. Et Stéphanie Fugain, la maman, est arrivée derrière et a dit « Arrêtez de vous plaindre, écrivez. » Tac, je suis rentrée à la maison, je dis « Ok, Et je me suis mise à écrire. J'ai passé l'été à écrire, j'ai écrit 250 pages, un truc énorme, et on était en plein dans toutes les revues féminines en parlant.
Ce qui n'est pas la proportion d'une pièce de théâtre.
Pas du tout. Jamais. Ouais. Pas du tout. Donc toutes les revues féminines parlaient de ce mal-être des trentaines. Elles sont belles, intelligentes, elles ont un boulot, mais elles n'ont pas de mec, tac, tac, tac. Donc je me suis un peu nourrie de tout ça, mes copines, enfin voilà, autour de moi. Et au bout de 4 mois d'écriture avec un espèce de pavé comme ça, je l'ai donné à mon agent, et mon agent m'a dit, mais c'est pas mal du tout, c'est un peu long. C'est un peu long.
Une pièce
mais
de retard, etc.
Bon bref, je l'ai envoyé, je l'ai recoupé, et à l'époque j'étais beaucoup plus connue que maintenant. J'avais beaucoup des couvertures de magazines, donc j'étais ce qu'on appelle vraiment bankable à la télé en tout cas. Et j'ai rencontré le producteur comme j'avais une peur panique de faire du théâtre parce que je me sens un peu plus légitime aujourd'hui, mais à l'époque je me sentais pas du tout légitime en tant qu'actrice. Je lui ai dit je vais faire la mise en scène. Mm-hmm. Genre très très peur. Il m'a dit non, moi ce qui m'intéresse c'est que tu fasses la promo, donc tu vas être sur scène et on va prendre un vrai metteur en scène. Et c'est comme ça que la salle de bain est née. C'est un accident vraiment.
Et c'est toujours un succès et pas qu'en Italie d'ailleurs. Je crois que c'est joué
en
d'autres
Espagne,
pays aussi.
En Espagne, en Italie, et c'est quoi, puis ça joue toujours en France.
Et c'est quoi l'histoire?
C'est l'anniversaire de Loulou ce soir. Alors je pense que maintenant ils ont adapté à 40 ans, puisque ça s'est quand même décalé. C'est toujours un peu la même problématique, hein, mais c'est plus les femmes de 30 ans, mais les femmes de 40 ans aujourd'hui. Et c'est l'anniversaire de Loulou ce soir. Elle se retrouve, elle fait une fête chez elle. Il y a sa mère, ses copines, et elles se racontent toutes leurs histoires dans la salle de bain avec la fête à côté. Donc c'est une espèce de vaudeville, enfin pas de vaudeville, mais de comment on appelle ça,
boulevard,
merci, mais avec un vrai fond
et tout se fait en aparté dans la salle de bain.
Exactement.
Par rapport à la fête qui se passe
j'aurais pu choisir la cuisine, mais j'ai choisi la salle.
C'était déjà pris,
c'était un peu trop stéréotypé.
C'était déjà pris. Isabelle Vitari, à ce moment-là, en 2003, vous écoutiez Tatou.
Oui, ça m'a bien ça.
C'était bien le slow. Hein.
Tatou, ça correspondait à votre. C'était un duo de jeunes filles qui d'ailleurs s'embrassaient.
Qui s'embrassaient.
Ça disait qu'elles étaient sœurs et tout, c'était hyper chelou.
C'est vrai. Non, elles étaient lesbiennes, non ? Ouais. C'était un peu le parti pris.
Bah oui, mais ils aimaient bien dire qu'elles étaient sœurs aussi, c'était très bizarre.
Non, ça c'est pas bien.
Si, bah non,
c'est pas bien.
C'est pas bien d'être sœur. C'est bien d'être lesbienne.
C'est pas bien d'être sœur.
Et oui, ça correspondait bien, oui, à mon état d'esprit, puisque j'ai c'était le moment où j'écrivais mon spectacle, mon premier spectacle, et c'est vrai que moi j'avais plein de copines lesbiennes avec cet humour-là assez trash. Donc ça correspondait bien à mon état d'esprit de l'époque.
Vous obtenez un premier rôle à la télévision dans la série Doc 13 sur M6. Mmh. Vous jouiez le rôle d'une femme qui sortait de prison, qui allait devenir réalisatrice de clips. Ce rôle vous a permis de vous lâcher, justement, parce qu'elle était un peu...
Oui, c'était rigolo. Oui, voilà. Mmh. Parce que moi, alors, contrairement à Astrid, moi, j'étais la petite fille optimiste bien sage, qui écoutait bien ses parents, pas de posters sur les murs. D'ailleurs, une fois, je voulais acheter les magazines pour les teenagers à l'époque, dans les années 90, qui s'appelait Okay, voilà, je voulais en acheter un. Et ma mère dit non, tu n'achètes pas ça. Et donc, du coup, je ne l'ai pas acheté. Et 20 ans plus tard, j'ai eu un flash, je me suis dit, mais j'aurais dû l'acheter, le jeter à la poubelle et rentrer chez moi. Et ben, j'ai même pas eu l'idée. J'étais complètement cucu, quoi. Cucu Vitari, quoi. Vraiment. Donc oui, ça faisait du bien d'être un peu rebelle. D'ailleurs, je ne sais pas comment je me suis débrouillée pour le jouer, parce que je ne veux pas le faire. D'ailleurs, je pense que j'étais assez mauvaise aussi, comme toi, Astrid, à mes débuts.
On progresse, puisque là, vous vous retrouvez seule sur scène, et notamment aussi dans Nos chers voisins. C'est en 2012, et vous écoutez Rihanna.
Ah, ça va mieux déjà, c'est mieux là.
Alors dans votre spectacle, dans votre seul en scène, vous jouez le rôle d'une mère dont la fille est lesbienne, décidément ça revient.
Oui,
ça revient.
Dans le premier spectacle.
Dans le premier
spectacle,
c'est ça, une femme toute seule.
Oui, absolument.
La bimbo est cervelée, enfin des différents personnages.
Ah mais je l'ai vu moi ce spectacle,
ah, mais c'était
super.
Bien.
Ah, merci. C'est celui qui était à la Comédie des Trois Bornes à l'époque.
C'est exactement,
super.
Ah, merci.
C'est incroyable. Merci.
Non, c'est extrêmement bien, mais dans chacun des personnages, c'est des caricatures. Vous avez été deux à écrire ce spectacle.
Exactement, avec Mika Tar, qui a aussi fait la mise en scène. Et on s'est éclaté à... Mais en fait, je me suis un petit peu cachée derrière ces personnages-là. Je faisais 8 femmes. Et on avait écrit sur notre vision qu'on avait de l'époque, de où on en était nous dans notre vie. Moi, je sortais de 2 ans et demi de célibat. Donc je racontais un peu à travers des personnages, notamment une cougar qui se tape un petit mec de 20 ans et qui pense qu'elle a le dessus sur lui. En fait, pas du tout, quoi. Les mecs de 20 ans maintenant, c'est porno land, quoi. Ils nous retournent dans tous les sens. Enfin,
Ok.
Oui.
Ah, encore. Oui, beaucoup, oh. Hein, beaucoup.
Tout de suite, les Magic System.
Tu peux arrêter avec ton épate, t'es insupportable. Astrid Veillon, vous écoutiez en 2013. Pour être à la hauteur de ce qu'on vous demande. Emmanuel Moir.
2013.
Ouais.
2003.
Non, n'importe quoi. Bah. 2003, pardon, je suis quand même de me regarder. Mais non, c'est 2003.
C'est quand je jouais avec Alain Delon.
Que vous écoutiez Emmanuel Moir.
Ah bah oui.
D'accord,
c'est
pas grave.
Mais non, pas grave. C'était grave.
On va parler quand même de ce que vous faisiez en 2013.
Oui, mais si vous voulez, mais j'écoutais pas ça.
Vous écoutez quoi en 2013?
Je sais plus.
D'accord. C'est pas longtemps, c'est il y a 4 ans en même temps. Vous écoutez quoi là maintenant, par exemple?
J'écoute quoi? J'écoute plus beaucoup de musique, vous voyez que je vous dise.
Non,
mais c'est vrai, depuis que je vis à la campagne, je me pépérise et je n'écoute plus de musique.
Vous avez animé sur Teva un magazine consacré à la maternité.
Exact.
En fait, ce sont six documentaires.
Oui, ma vie de maman. Ouais. Non, c'est... Alors moi, j'ai complètement irrationnel. Dès que je parle d'enfant ou de mon fils, j'ai envie de pleurer. Alors c'est vraiment... Alors je me dionise. Céline Dion, je fais ma Céline Dion. Mais c'est très particulier. Donc j'ai eu mon fils aîné en 2010. J'ai pris une claque magistrale. Ça a tout changé dans ma vie. Mon regard sur le monde, sur ce que j'étais, sur ma profession, sur les gens qui m'entouraient. Ça a été très, très particulier. Et quand on est venu me proposer ma vie de maman, évidemment, j'ai pas hésité une seconde parce qu'on restait dans la maternité, dans la problématique des mamans, des enfants. Et c'est con, hein, punaise. Et faut que je retourne voir un psy, je pense. Et donc.
Alors, il faut juste expliquer aux auditeurs, pardon, parce que vous dites c'est con, moi je voulais pas en parler. Là, il y a à nouveau les larmes qui vous montent
mais
aux yeux
d'en parler. C'est complètement irrationnel, même moi je n'arrive pas à me l'expliquer. Donc,
d'accord, bon, on va arrêter de me faire pleurer. Alors.
Mais non, mais je pleure pas, c'est très gay. Et donc.
Compris, Nagui donc...
J'ai pas voulu le lire, mais j'ai pensé très fort.
Donc voilà, ma vie de maman, c'était à la rencontre de plein de mamans et j'ai adoré ces moments-là. Déjà, j'ai joué le rôle de journaliste. Je voulais vraiment préparer, moi, mes interviews, voir tous les reportages. Je me suis vraiment investie. Ça s'est planté royalement. Mais alors moi, j'ai pris un pied phénoménal à faire ces
essentiel.
Émissions.
C'est l'essentiel.
Oui, complètement.
C'est l'essentiel.
Tout à fait.
Meurtre à Aix-en-Provence, ça sera samedi prochain à 20h50 avec ces brillantes et pétillantes Astrid Veillon et Isabelle Vitari, pour lesquelles vous avez préparé un brouillon de culture,
oui,
Leïla.
Oui, absolument. Les filles, je vous sors de la promo un petit bol d'air. C'est notre brouillon de culture, histoire d'apprendre à mieux vous connaître. Et on commence par un son pour vous, Astrid.
Isolée, maltraitée, menacée. Parce que la vie est parfois si rude avec certains enfants, ils ne peuvent rester dans leur famille. Trop de frères et de sœurs se retrouvent alors séparés. Il est de notre devoir de protéger et de réunir ces enfants qui ont droit, eux aussi, à une vraie vie d'enfant. SOS Village d'enfants, pour que frères et sœurs partagent la même enfance.
On va encore parler d'enfants.
Oui, bah oui. Oui.
Tu veux vraiment la faire pleurer?
Non, mais pas du tout, mais c'est vraiment, tout va bien.
Mais c'est mignon, mais ça va, ça veut dire que c'est...
Ça vous
touche. Oui, puis surtout, c'est l'essentiel. C'est
je crois, oui.
La vraie vie.
Vraiment, j'y croyais pas avant, mais ouais.
Puis ça vous rend humaine.
Parce que j'avais
là, c'était un spot pour SOS Village d'enfants, une association dont vous êtes marraine, oui. Astrid, et vous avez même contacté pour donner un coup de main quand vous avez vécu le tsunami en Inde. Vous
oui.
y étiez.
Oui, tout à fait. Je jouais avec Alain Delon, d'ailleurs, les Montagnes Russes à cette époque-là. Je traversais une période de ma vie un peu difficile et compliquée. Et mon amoureux de l'époque m'a proposé de partir en Inde parce que c'est un pays qui m'est très cher. Et j'ai connu l'Inde sous un autre aspect, c'est-à-dire que j'avais toujours fait des voyages sac à dos et tout là-bas. Mm-hmm. Et là, j'ai fait tout ce qui est Rajasthan, palais, etc. Donc c'était une autre
vision. Ouais.
Toute la richesse de l'Inde est dans ça, dans cette différence. Et à un moment, on part en montagne, on était une dizaine, que de la famille de mon amoureux à l'époque. Et
on captait rien. Et d'un coup, en revenant de la... Tous les portables se sont mis à sonner. Et donc, il y avait eu le tsunami et tout le monde nous demandait si on allait bien, etc. Ouais.
Le fameux « t'es où ?» là prend une autre signification.
Exactement. Ouais,
on veut des nouvelles de ses
proches. Et en rentrant, je suis retournée sur scène et je me suis sentie tellement impuissante vis-à-vis de ce qui se passait alors que j'étais dans le luxe et que des enfants et des gens mouraient. Enfin bon, c'est très compliqué. Et je me suis dit, je veux faire quelque chose pour ces gens.
Être utile.
Exactement. Et j'ai contacté, enfin, SOS, j'ai reçu une pub pour SOS, voilà, comme quoi la vie, hein. Et je l'ai pris, j'ai appelé, j'ai dit, voilà, je veux me rendre utile, etc. Et donc, on est allé, j'ai commencé à être là pour un village qui a été construit à Raipur. Et donc, je suis allée poser la première pierre, j'ai accueilli les premiers enfants, j'ai fait des voyages très souvent en Inde pour ce village-là. Et je me suis d'ailleurs pris d'affection pour une petite fille qui s'appelait Pretty, que je n'arrivais pas à quitter. C'était avant que j'ai mon fils. Et voilà, et SOS, oui, c'est une belle histoire. Et je trouve que c'est une association très intelligente et très riche.
Et vous avez fait des clichés d'enfants là-bas dans les villages et vous avez exposé, vous exposez toujours ces clichés ?
Plus, mais je repartirai en Inde et je referai des photos d'enfants et je les réexposerai pour l'association. Oui.
Voilà, que vous exposez pour vendre et pour récolter ces fonds-là encore. Et d'ailleurs, l'Inde, c'est un pays important parce que je crois que philosophiquement, spirituellement, ça compte beaucoup pour vous.
C'est là où j'ai appris la méditation et surtout à pardonner, tout simplement. Et ça m'a fait beaucoup de bien, effectivement.
C'est important.
Ouais.
Je poursuis.
Tu me regardes, je veux dire quelque chose ?
Non. Non, mais je trouvais ça joli, tout simplement.
Non, je ne me sentais pas concerné par le « c'est important de pardonner ». Je ne sais pas pourquoi tu me regardes à ce moment-là, je suis très gêné.
Tu ne veux pas méditer ?
Quel manque de gens concernés.
On poursuit avec un son pour vous à présent, Isabelle.
Sur un tcha-tcha. Isabelle Vitari. Catherine Apachette. Oh, tu fais bien.
C'est générique de danse avec les stars.
J'ai cru.
Carrément.
Ah oui, moi j'ai cru aussi.
Tom
Villa, imitateur de danse avec les stars.
Une émission, Isabelle, à laquelle vous avez failli participer, je crois que c'était en 2014.
Sans blaguer.
Ah oui, mais il me le propose très souvent.
Tous les ans. Très souvent, c'est tous les ans.
Oui, voilà.
Ça peut pas être plus.
Oui, vous êtes danseuse.
Je suis dans... Oui, brouillon, mais élégante.
Mais élégante, exactement.
Brouillon et élégante.
Gracieuse.
Mais gracieuse.
Gracieuse, absolument. Absolument. Oui. Et pourquoi l'avoir refusée ?
Eh ben, une fois, j'étais enceinte, une fois, je tournais, une fois, machin, ça allait jamais.
Faites aucun effort.
Mais vous en auriez envie ?
Voilà.
Est-ce que vous en auriez envie ?
En fait, j'adore la danse de salon, j'ai une grande passion pour ça, j'ai fait des cours de rock'n'roll. Je me souviens avec Lucien Jean-Baptiste à l'époque, quand on était ensemble à Florent. J'ai fait des stages de rock'n'roll et j'adore, je le regarde à la télé avec des robes là, à poils.
En fait, Lucien avec des robes ?
vous aimez danser les slow, il n'y en a plus, vous aimez danser le rock, il n'y en a plus en boîte, vous n'allez plus en boîte.
Mais il ne me reste plus que danser avec les stars, sinon voilà, je ne danserai plus jamais.
Donc ça veut dire que vous le ferez un jour ? C'est une question de planning, c'est seulement une question de planning.
Oui, oui.
Et est-ce que c'est pas aussi une question de se dire, est-ce que ça brouille pas un peu les pistes ? Est-ce que,
voilà,
par rapport à une carrière de comédienne, qu'est-ce qu'on privilégie ?
C'est la grande question. Je pense que c'est bien quand on est chanteur, ça va bien avec ce métier-là, mais je pense qu'acteur, c'est pas...
Mais en même temps, vous êtes l'une des icônes de TF1 avec les chers voisins, donc j'imagine qu'ils doivent vous mettre une pression pour vous mettre en avant et vous faire passer dans Danse avec les stars aussi.
Non, ils sont très corrects, non. J'ai juste eu 2-3 lettres
d'insultes. J'ai eu des lettres recommandées à la direction qui me disent.
Ils sont absolument charmants.
Et d'accord. Je finis avec un cadeau pour chacune d'entre vous, puisqu'il est question dans Meurtre à Aix-en-Provence d'enquête policière, de thriller sur fond historique. Et bien, j'ai trouvé 2 romans policiers qui correspondent à ça. Pour vous, Isabelle Vitari, Les Voyageurs Noirs d'Éric Georges Aigret aux éditions du Rocher. Vous allez voyager de Copenhague.
Daniel, s'il te plaît, rends service, passe le livre.
Pardon.
Non, c'est pas pour toi, pour Isabelle.
De nos jours, en passant par la Venise. Du 17e siècle.
Je pars à Venise demain.
Et ben voilà, ça va vous accompagner. Et génial. Pour vous, Astrid, je vous offre Rouge Éden de Pierre Bénichoux aux éditions Bellefond. Là, c'est un thriller philosophique avec un tueur en série.
Parfait. Voilà. Merci beaucoup.
Merci, Leïla.
Merci.
Leïla. Voici l'humeur de Daniel Morin.
Oui. Quoi, tu vas où, Leïla ?
Mais rien, elle t'écoute. Mais pas du tout, elle t'écoute.
Mais non, il faut le dire.
Elle t'écoute.
Elle me déteste.
Elle t'écoute.
Pose-toi les bonnes questions.
Ça y est. Nom de Dieu, ça y est, c'est fait. Il est devenu président, le bougre. Quel talent, ce mec. Quelle présence.
Quelle physique.
Et puis quel cadre pour son discours. Non, non, excellente idée hein, d'avoir loué à Nagui sa pyramide. Ça le faisait grave. Et ça le faisait grave. Le mec est brillant. Hein.
J'ai dû nettoyer
les... Fait un prix.
J'ai fait les vitres. J'ai fait les vitres tout le week-end.
Il a fait un prix, j'espère. Filmé en contre-plongée avec la pyramide derrière, on aurait dit Raël. C'était canon, c'était mystique, c'était bizarre. Bref, Emmanuel est notre président, le président qui va nous mettre au travail. Le travail, c'est son truc. Hein. Avec Nicolas Sarkozy, on avait la France qui se lève tôt. Et ben, le nouveau président, il va un cran au-dessus. Avec Macron, ça va être la France qui ne se couche pas. Il va falloir bosser, tous. J'espère que toutes les feignasses qui sont en train de nous écouter, écroulées dans leur plumard, profitent bien de leur jour férié parce que c'est le dernier. Avec Emmanuel, plus de jour férié. C'est terminé tout ça. L'année prochaine, le 1er mai sera toujours la fête du travail. On travaillera deux fois plus. Punaise. En tout cas, et Nora en est l'illustration, hein, j'ai jamais autant entendu de gens dire « Oh la vache, je suis soulagé !» Genre, le Front National, c'était inquiétant. Pff, n'importe quoi, ma fille. Ils étaient tous dans un état. Oh mon Dieu, mais si elle passait, si ça faisait comme aux States. Oh non, je crois que je supporterais pas, je partirais à l'étranger, je peux pas vivre dans un pays fasciste. Jamais je pourrais tolérer de vivre au cœur d'un régime rythmé par les bruits de bottes et croiser dans les rues les milices du pouvoir prêtes à égorger mon épicier oriental ouvert 24-24-77. Non, no passaran, comme on dit en Allemagne. Je suis soulagé. Soulagé, mais aussi inquiet. Inquiet pour Laurent Delahousse.
Pourquoi ?
Comme un bon soldat du service public, j'ai regardé la soirée électorale de France 2.
Ouais, moi aussi.
Alors, je ne sais pas ce qui se passe, mais ce pauvre Delahousse, il n'est pas à la fête du tout. Il y a 15 jours, pour le premier tour, il n'était même pas assis à côté de Léa Salamé et Pujadas. Il était animateur de réalité virtuelle. Il nous montrait sur fond vert les différentes pièces du palais de l'Élysée. Et après, hop ! On l'a plus vu. Il est parti. Hier soir, il n'était même pas en studio. Il était guide au Louvre.
Ah non, il était guide. Il était d'abord sûr, après il était
non, il était sur une passerelle à nous dire qu'il se passait rien. Voilà, à ce rythme-là, pour les législatives, on va le retrouver dame pipi au Palais Bourbon. Voilà, c'est l'avenir de Laurent Delahousse. Attention, quand je dis que j'ai regardé la soirée, j'ai vraiment été jusqu'au bout. Je me suis fait l'after avec Julien Bugier. Julien, c'est clair, lui, il a les restes. Et quand tu vois les restes, tu te dis que le repas n'était pas copieux. Hein. En même temps, les invités de Julien, c'est vrai que c'est une vraie découverte. Hein. Personne ne les avait jamais vus avant. Personne. Total inconnu. Et quand il envoie ses correspondants, c'est pareil. Tout de suite, on retrouve Jean-Paul en direct du Louvre. Alors Jean-Paul, c'est toujours l'effervescence ? Non, pas vraiment, Julien, ça se vide. Ça se vide doucement, mais ça se vide. Allez, vous avez trouvé quelqu'un pour nous donner le sentiment de cette soirée ? Julien, il n'y a plus personne, il n'y a plus que des clodos, Julien. Jean-Paul, n'hésitez pas à nous rappeler si vous avez du neuf. Bien sûr, Julien. Ah, pas facile, hein, la politique, hein, 1h du mat quand il ne reste plus que les clodos. Le principal, c'est qu'Emmanuel Macron soit président. On est tous soulagés d'avoir un président qui soit pour le vivre ensemble, le travailler ensemble, au-delà des partis et même des cloisonnements. Du coup, c'est super, je vais pouvoir travailler en bonne intelligence avec Nagui. Non, ça ne va jamais marcher. Bon, allez, à demain.
La bande originale avec Nagui.
Meurtre à Aix-en-Provence, hein, puisqu'il y en a plusieurs de ces meurtres. Meurtre à Aix-en-Provence, ça sera samedi prochain à 20h55. Isabelle Vitary, Astrid Veillon, dans les semaines, les mois qui viennent. Donc, vous êtes sur scène tous les jeudis à 21h30 à la nouvelle scène.
À partir de quand ? En juin. Tous les jeudis de juin.
Uniquement
pour
les jeudis de juin.
Après, on verra pour septembre. Après, je pars en vacances parce que ça me crève. Je
crève. Une fois par semaine, ça l'épuise. Oh,
mais vous continuez, mes chers voisins, quand même ou
oui,
pas
oui, ça passe toute la soirée. Oui, 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 tous les soirs. Oui.
Non, mais je veux dire, parce qu'on ne se rend pas compte, là, s'il y a encore des saisons. Si...
Alors,
parce que, oui, si vous tournez encore, si ça s'arrête ou pas.
Oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas tourné. Et alors, je crois que je peux le dire, on arrête de tourner la quotidienne.
Donc la quotidienne va s'arrêter.
La quotidienne s'arrête et là ils partent sur du plutôt 52 minutes. Ils sont en train de travailler de voilà développer ça.
Donc les chers voisins vont continuer, mais ça sera pas tous les soirs, ça sera une fois de temps en temps en prime.
Voilà. Mais à la diffusion, je pense qu'ils ont assez de quoi. Enfin, ils ont de quoi tenir une petite dizaine d'années quoi. Ils ont assez de sketchs.
Non,
ils ont plein de sketchs en avance.
Qui ne sont pas passés encore.
Oui.
D'accord.
Oui,
très bien. Et vous, Astrid, alors que va-t-il se passer dans les semaines ou mois à venir ? Mais l'écriture de ce roman ?
Il y a l'écriture de mon roman, il y a Tandem qui va passer à partir de, je crois, juin aussi, tous les mardis. Et puis, je fais la suite de Tandem, puisqu'on en fait 12 cette année. Et puis, je ne sais pas. Voilà.
Ça fait déjà beaucoup de
choses.
Oui,
c'est déjà pas mal. Voilà. Après, je fais mon potager, tout ça.
Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Bien sûr, des excuses. Désolé déjà pour tous mes amis fans de Magic System qui... Non, je déconne, j'ai pas d'amis, j'écoute Magic System. Il y avait quand même Nagui. Désolé pour tous mes amis électeurs de Marine Le Pen qui ont une nouvelle fois subi les mauvaises vannes de cette bande de bobos, gauchos, crypto, cognos. Je peux vous dire que ça va très vite changer.
ou pas.
Désolé pour Astrid, et on l'a vu hein, ce matin. Elle va pas mieux, elle le dit en criant, elle a pas d'amis dans le métier, on lui donne que des rôles de flic. Astrid, finalement, je pense que ça va s'arranger un jour. Ou pas.
Ceci étant, les élections, vous n'arrêtez pas de dire qu'on est soulagé, qu'on en est sorti. Non, on va y retourner oui, là ouais. pour les législatives. C'est quand c'est en juin d'ailleurs, 11 et 18 juin, ouais. je crois.
C'est dans un gros mois.
Un gros mois. Donc gros mois. On va mettre ça. Merci beaucoup. En tout cas, pardon, mais l'émission est légèrement plus courte parce qu'il y a une spéciale pour les élections présidentielles. Isabelle Vitari et Astrid Veillon seront donc à partir, ce samedi soir, 20h55, sur France 3 avec Meurtre à Aix-en-Provence, aux côtés d'Andrea Ferréol, de
Christophe. N'en dis pas trop.
De Christophe Rousseau. de Jérémy Comillo.
Il est fatigant. Il cache tout comme ça. Spoiler. Personne ne va regarder.
Merci mille fois. C'est Brigitte Fossé qui sera notre invitée. Demain dans la bande originale.